Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, Le Monde aujourd'hui, édition de 5h30 de ce vendredi 6 décembre 2019. En direct du studio 16 de la Voix de l'Amérique à Washington, Nanit Talani
et Michel Joseph.
Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Au sommaire ce matin,
au Gabon, un collectif d'opposants dénonce une monarchisation du pays.
Au Cameroun, enlèvement de 17 jeunes par Boko Haram.
En Guinée, report du jugement dans le procès de 10 responsables d'opposition.
Plus de 60 migrants meurent dans le naufrage de leur bateau au large de la Mauritanie.
Au Nigeria, deux opposants libérés après des mois d'incarcération.
À Madrid, une marche pour le climat pour mettre la pression sur la COP25.
Ici aux États-Unis, le Congrès va entamer la rédaction de l'acte d'accusation de Trump.
Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais pour l'instant, le journal.
Un collectif d'opposants dénonce une monarchisation du Gabon, affirmant, comme la presse d'opposition, que les récents bouleversements témoignent du pouvoir grandissant de l'épouse Sylvia Bongo et du fils d'Ali Bongo, Nouredine. Le président Ali Bongo Ndima a appelé au grand jour son fils aîné pour l'épauler au sein de la présidence. Le gouvernement gabonais a créé hier le poste de coordinateur général des affaires présidentielles qui a été attribué à Nouredine Bongo Valentin, le fils aîné du président. Sa mission sera d'assister le président de la République dans la conduite de toutes les affaires de l'État et veiller à la stricte application de ses décisions. Il dispose ainsi d'un cabinet.
Au Cameroun, 17 jeunes âgés de 11 à 20 ans ont été enlevés hier soir par Boko Haram dans la région de l'extrême nord du pays, en proie depuis plus de 5 ans aux attaques du groupe djihadiste nigérian. Les précisions avec Irénée Herman Ngbo.
Boko Haram a attaqué la localité de Mbrèche, située à une trentaine de kilomètres de la frontière avec le Nigeria. Ils ont enlevé 21 personnes, mais 4 ont réussi à s'enfuir. 17 restent en captivité, a indiqué une autorité administrative locale. Les civils kidnappés sont des garçons et des filles âgés entre 11 et 20 ans. L'armée a lancé une opération de ratissage qui se poursuit. Parmi les 4 personnes qui sont revenues, une a dit avoir reconnu chez les ravisseurs des habitants de Mbrèche qui ont été enrôlés par Boko Haram. Selon l'armée, des recherches ont été engagées pour retrouver les 17 otages. Boko Haram, dont l'insurrection a débuté en 2009 au Nigeria, a étendu ses attaques au carrefour du Niger, du Tchad et du Cameroun. Bien qu'affaibli, il reste actif dans l'extrême nord du Cameroun, où vivent 4 millions de personnes. Depuis 2014, les autorités camerounaises ont compté près de 13 000 attaques sur leur territoire qui ont fait plusieurs milliers de morts. L'insurrection a forcé plus de 250 000 personnes à fuir leur domicile et provoqué un afflux de 60 000 réfugiés nigériens.
De l'armée congolaise sous sanction de l'Union européenne a été appelé en renfort des opérations militaires actuellement en cours à Beni contre les groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo. Le général John Numbi Tombo, inspecteur général des forces armées de la RDC, est venu en appui aux actions déjà entreprises par le chef d'état-major pour soutenir le moral des troupes, a déclaré lors d'une conférence de presse le porte-parole de l'armée, le général Léon Richard Kasonga. Le général Numbi figure sur la liste des 14 personnalités congolaises affectées par des sanctions de l'Union européenne pour atteinte aux droits de l'homme dans les 2 dernières années du régime de l'ancien président Joseph Kabila.
En Guinée, la justice a reporté hier son jugement dans le procès de 10 responsables d'opposition à l'origine de manifestations contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Le temps que la Cour constitutionnelle examine la validité de ces poursuites, le point avec John Lyndon.
Mangandou Basso, président de la Cour d'appel de Conakry, a demandé à la plus haute juridiction du pays de se prononcer sur ces poursuites. La haute cour devra donc dire si les articles du code pénal sur lesquels elle se fonde ne contredisent pas la Constitution qui garantit la liberté de manifester. L'annonce du report a été saluée par des cris de joie. Les prévenus, remis en liberté provisoire la semaine dernière après un mois de détention, ne vont pas pour l'instant retourner en prison, a expliqué Amidou Barry, l'un des avocats à la défense. Ils avaient été reconnus coupables fin octobre d'avoir causé des troubles en appelant à manifester à partir du 14 octobre contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Condamnés à des peines allant de 6 mois à 2 ans ferme, ils avaient fait appel. Ces protestations ont été parfois violemment réprimées, faisant une vingtaine de morts, dont un gendarme.
Au Nigeria, les journalistes et opposants Omoyele Sowore et Olawale Bakare ont été libérés hier après des mois de détention sur ordre d'un tribunal qui avait donné 24 heures au service de la police secrète pour cette libération. Plus tôt dans la journée, un juge nigérian avait donné 24 heures à la direction de la sécurité pour libérer les deux opposants incarcérés depuis début août pour insurrection et trahison. La justice avait également condamné le département des services de sécurité à payer 250 euros pour ne pas avoir obéi à un premier jugement exigeant leur libération après la période d'enquête applicable par la loi nigériane.
Plus de 60 migrants africains sont morts noyés au large de la Mauritanie en tentant de gagner l'Europe. C'est le pire naufrage en 2019 sur la route des migrations longeant la côte atlantique, affirme l'OIM, Organisation internationale des migrations. Le bilan pourrait s'alourdir. On était 195 personnes sur le navire. Il n'y a que 81 personnes qui ont survécu. Tous les autres sont dans la mer, raconte l'un des rescapés, Dia Alpha Sonoko. Selon l'OIM, les migrants n'ayant plus d'essence ont voulu se rapprocher de la Mauritanie et ont heurté un rocher. Ils ont quitté l'embarcation à la nage. 83 naufragés, dont 10 mineurs, sont parvenus à rejoindre le rivage, mais des dizaines d'autres ont péri.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des centaines de milliers de personnes ont manifesté hier en France dans le cadre d'une grève contre la réforme des retraites, un projet emblématique du quinquennat d'Emmanuel Macron. Le mouvement est reconduit dans les transports. Les précisions de Nathalie Barge.
La CGT a annoncé plus d'un million et demi de manifestants, tandis que le ministère de l'Intérieur en a comptabilisé 806 000. À Paris, le cortège était encadré par un important service d'ordre syndical et 6000 policiers et gendarmes. Des incidents entre casseurs et forces de l'ordre ont éclaté près de la place de la République et à la fin du cortège, place de la Nation. Une remorque de chantier a été retournée et incendiée et plusieurs vitrines brisées, tandis que les forces de l'ordre essuyaient des jets de projectiles et répliquaient par des tirs de lacrymogènes. La police a procédé à une centaine d'interpellations. À Toulouse, des échauffourées en fin de manifestation ont fait 5 blessés légers, dont 3 policiers. En dépit des incidents, le Premier ministre Édouard Philippe a rendu hommage aux syndicats, notant que dans un très grand nombre de villes, les manifestations se sont bien passées car elles ont été bien organisées.
Les discours ne suffisent plus. Des milliers de personnes vont manifester ce vendredi à Madrid pour pousser les pays signataires de l'accord de Paris, réunis pour 2 semaines à Madrid, à agir contre le réchauffement climatique.
Ici, aux États-Unis, la chef des démocrates au Congrès américain, Nancy Pelosi, demande la rédaction des articles de mise en accusation du président Donald Trump qu'elle accuse d'abus de pouvoir. Eric Manirakiza.
Nous gagnerons la bataille, a réagi le locataire de la Maison Blanche en se disant pressé du procès au Sénat où la majorité républicaine devrait en toute probabilité l'acquitter. Peu de temps avant, dans une allocution formelle, Madame Pelosi a demandé à la commission judiciaire de la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, d'entamer la rédaction des articles de mise en accusation du président, impeachment en anglais.
The president leaves us no choice but to act.
Le président ne nous laisse pas d'autre choix parce qu'il a de nouveau essayé de corrompre nos élections pour son propre bénéfice, a-t-elle justifié sur un ton solennel. Il a commis un abus de pouvoir, affaibli notre sécurité nationale et mis en danger l'intégrité de nos élections, a-t-elle encore asséné. Les parlementaires ont entamé mercredi le débat juridique pour savoir si les faits reprochés au président correspondent à l'un des motifs de destitution prévus par la Constitution, trahison, corruption ou autre crime et délits majeurs.
Le ton monte entre l'Iran et les Européens qui se rencontrent aujourd'hui à Vienne pour faire le point sur l'intensification des activités nucléaires de la République islamique, de moins en moins inclinée à respecter ses engagements internationaux depuis que Washington a replacé le pays sous sanctions.
Voilà pour le journal. À présent, l'essentiel de l'actualité économique en Afrique qui vous est présenté ce matin par Irénée Herman Mbo.
Au Cameroun, le port autonome de Douala, le plus grand d'Afrique centrale, a annoncé jeudi qu'il va succéder à partir de janvier au groupe français Bolloré pour gérer son propre terminal à conteneurs, alors que le processus de désignation de nouvel opérateur a été suspendu par Yaoundé. Le PAM a lancé hier au Zimbabwe un appel aux dons pour venir en aide à plus de 5 millions d'habitants, soit un tiers de la population de ce pays en proie à la sécheresse et à une grave crise économique. Le programme mis en place par l'agence onusienne est d'un coût global de 393 millions de dollars américains. En Afrique du Sud, une procédure de sauvegarde de la compagnie aérienne South African Airways, lourdement endettée, a été lancée également hier pour éviter la faillite du groupe, incapable de payer la totalité des salaires en novembre à la suite d'une grève. Les bourses européennes ont temporisé en baisse ou très faible hausse dans un marché en attente de nouvelles informations sur le conflit commercial sino-américain. En Allemagne, où le DAX a perdu moins 0,65% à 13 054,80 points. Il manque, selon des experts, de nouvelles impulsions. Cette situation atone risque de continuer tant qu'il n'y a rien de neuf dans le différend commercial entre la Chine et les États-Unis.
À présent, nous allons aborder notre page sportive avec Yakuba Ouédraogo. Bonjour Yakuba.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
Commençons par cette fortune diverse pour les pays africains au mondial de handball féminin.
Oui, les jours se suivent et se ressemblent pour les pays africains à la Coupe du monde féminine de handball. Après trois défaites consécutives, la République démocratique du Congo a offert au continent son premier succès dans la compétition, victoire des Congolaises 25-24 face à la Chine. Par contre, pour son quatrième match, l'Angola est tombée devant la Norvège 24-30, même si la palancasse Azenaïde Carlos a été désignée meilleure joueuse de la rencontre. De son côté, le Sénégal a aussi perdu son quatrième match de suite, défaite des Lions devant la Hongrie 30-20. La dernière journée de la phase de groupe se joue aujourd'hui. Le Sénégal fera face au Kazakhstan et la République démocratique du Congo à l'Argentine. Et l'Angola affrontera Cuba.
Et ce record d'engagement dans les éliminatoires de la CAN féminine 2020.
Toujours dans l'attente d'un pays hôte pour la CAN féminine 2020, la CAF enregistre un record d'engagement dans les éliminatoires de la compétition. 36 nations sont dans les starting blocks pour ces éliminatoires. Le tirage au sort des qualifications effectuées hier au Caire propose de belles affiches dès le premier tour, entre autres rencontres Zambie-Mozambique, Tanzanie-Kenya, Togo-Niger, à suivre également Algérie-Burkina Faso. Ces matchs du premier tour des éliminatoires se disputeront entre le 6 et le 14 avril 2020. Ceux du second tour auront lieu du 1er au 9 juin 2020. Les 11 qualifiés de cette seconde phase disputeront la phase finale plus le pays organisateur du 23 novembre au 1er décembre 2020.
Ambroise Oyongo prolonge avec Montpellier.
Le latéral gauche camerounais de 28 ans a prolongé son contrat avec le club français qui n'a dévoilé aucun détail sur le nouveau bail d'Oyongo qui était déjà lié jusqu'en 2022. Ambroise Oyongo a disputé 39 matchs de Ligue 1 depuis le début de la saison dernière. Arrivé de l'Impact Montréal en 2018, le vainqueur de la CAN 2017 avec le Cameroun s'est félicité de son nouveau contrat. C'est une marque de confiance de la part du club. Maintenant, c'est à moi de rendre cette confiance par mes performances.
Pour finir, Yakuba, Romelu Lukaku fustige la une d'un journal en Italie.
Au lieu de se concentrer sur une bataille entre deux équipes, le Corriere dello Sport fait la une la plus stupide que j'ai jamais vue dans ma carrière, a condamné l'international belge d'origine congolaise Romelu Lukaku. Hier, deux clubs de Serie A ont qualifié de terrible et inacceptable. Le titre Black Friday à la une du quotidien sportif Corriere dello Sport, consacré à Romelu Lukaku et Chris Smalling. Des photos de ces deux anciens joueurs de Manchester United apparaissent sur la première page pour illustrer un article sur l'affrontement prévu ce soir entre leurs deux clubs, l'Inter Milan pour Lukaku et l'AS Roma pour Smalling.
En NBA, Houston s'est imposé à Toronto 119-109. Philadelphie a été battue par Washington 113-119. Denver a étrié Brooklyn 129-92. Et enfin, Phoenix a pris le dessus sur New Orleans 139-132.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde d'aujourd'hui en direct du studio 16 de Washington, Nanit Talani. Maintenant, place au dossier du jour. Pour commencer, les présidents des pays du G5 Sahel seront à Pau, en France, le 16 décembre pour discuter avec leur homologue français de la lutte djihadiste dans la région. Mais Paris veut qu'ils clarifient et formalisent leur demande à l'égard de la France pour sa présence militaire antiterroriste au Sahel. Pour analyse, Eric Manerakiza a joint à Dakar l'analyste politique du groupe de réflexion Wati, le docteur Gilles Olakoulé Yabi.
Je crois surtout que cela nous éloigne un peu de la réalité du terrain et de la gravité de la situation et qu'on est en train aujourd'hui de multiplier les déclarations sur les relations entre la France et les pays du Sahel en oubliant qu'il s'agit d'une situation qui est complexe et qu'aujourd'hui le plus important pour les pays de la région c'est vraiment d'éviter l'effondrement et la présence dans le Sahel s'inscrit aussi dans cette logique.
Une présence importante qui a sauvé cette région.
C'est une présence importante qui, en 2013, a permis de stopper la dégradation, la situation au Mali, ou en tout cas la peut-être une partie plus importante du territoire par les groupes armés djihadistes. C'est beaucoup plus complexe que cela et on sait très bien qu'il y a une longue histoire dans ces relations entre la France et les pays africains, en particulier les ex-colonies françaises.
Comment contenir ce sentiment anti-français qui est contre-productif, en effet?
Oui, je pense que le sentiment anti-français qui monte beaucoup dans les pays du Sahel et au-delà dans beaucoup de pays africains, il est contre-productif. Dans le sens où, à nouveau, il détourne notre énergie, notre créativité, notamment au niveau africain, de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la consolidation des États, c'est la consolidation des institutions civiles et militaires dans les pays de la région. Et c'est précisément la faiblesse de ces institutions qui permet, disons, une situation d'extrême dépendance sur le plan sécuritaire à l'égard d'acteurs internationaux, au premier rang desquels la France. Je crois à nouveau que ce sentiment anti-français, il a des origines plus lointaines que la situation actuelle dans le Sahel, qui est beaucoup une situation de frustration de la part de populations qui ont l'impression qu'il y a beaucoup de moyens militaires engagés et qu'en même temps, il y a peu de résultats, puisque la situation sécuritaire, elle se dégrade, elle s'est dégradée au fil des ans depuis 2013 en territoire malien et surtout d'extension vers les pays voisins, en particulier le Burkina Faso.
Et que devrait être la réponse de ces chefs d'État?
À nouveau, c'est difficile à dire. Je pense qu'ils n'ont probablement pas vraiment le choix que de répondre à l'invitation française. La réalité aujourd'hui est une réalité d'extrême dépendance. Et il me semble important aussi d'expliquer aux populations des pays concernés en Afrique, c'est que on a créé les conditions de cette extrême faiblesse et de cette extrême dépendance. Et aujourd'hui, il n'y a pas une infinité de solutions qui soient à portée de main. La rupture, une sorte de rupture brutale avec la France sur le plan de la coopération militaire ou de la présence militaire française ne me semble pas envisageable. Et je crois que ce qui est important, c'est pour les États de la région d'identifier leurs intérêts vitaux, de savoir qu'il y a un espace d'intérêts partagés entre eux et la France, mais qu'il y a aussi sans doute une divergence dans certains intérêts, dans certains rythmes et dans certaines approches. Donc ce qui est important, c'est que les États de la région puissent naviguer un peu à l'intérieur de situation où le rapport de force à nouveau est extrêmement défavorable.
Le docteur Gilles Olakoulé Yabi, l'analyste politique du groupe de réflexion Wati.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos,
et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Cap sur l'Afrique centrale, des centaines de réfugiés centrafricains vivant en République démocratique du Congo sont rentrés chez eux. Ce rapatriement s'est effectué dans le cadre du tout premier programme de retour volontaire pour environ 172 000 personnes déplacées de force suite au conflit centrafricain qui a éclaté en 2013. Yakuba Ouedraogo.
Des chants de joie, l'émotion était palpable au sein de ces 400 réfugiés centrafricains qui quittent Zongo dans la province du sud Ubangi, dans le nord de la RDC, pour poursuivre leur voyage en bateau. Destination Bangui, la capitale de la République centrafricaine. À l'arrivée, autorités, parents et amis sont là pour souhaiter la bienvenue à leurs compatriotes qui avaient fui le pays en raison du conflit qui a éclaté en 2013. Parmi eux, Serge Adam.
Après 6 ans d'absence, et avec les amis, les parents, aujourd'hui, je sais que je suis chez moi. Nous sommes comme un nouveau-né.
Comme Serge, Marie-Joseph Demba a 60 ans et revient avec ses 2 filles et sa petite-fille.
Nous sommes nombreux, et les jeunes, et les enfants, et les jeunes filles. Maintenant, nous sommes à la charge de notre gouvernement.
Ce retour volontaire au Bercail a été rendu possible grâce à un accord tripartite signé par le HCE et les gouvernements de la RDC et de la Centrafrique en juin dernier. Depuis, 4000 personnes se sont inscrites au programme de rapatriement, espérant rentrer chez elles d'ici fin 2019. Bouti Kalé est le représentant du HCE en République centrafricaine.
Nous espérons continuer et avec le financement que nous avons pour un nombre limité de réfugiés, nous allons le faire jusqu'à la fin de cette année et nous continuerons jusqu'en 2020 pour nous assurer que ceux qui ont exprimé la volonté de revenir pourront le faire.
Une meilleure sécurité dans les zones d'origine suite à l'accord de paix entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés a motivé ces réfugiés à mettre fin à leur exil. Ils devront maintenant retrouver leur maison à l'intérieur du pays, espérant que ce qui s'est passé ne va plus se reproduire. C'est le souhait de Renaud Mawina.
Oui, la crainte est que nous ne voulons pas que cette situation qui est venue perturber le pays ne puisse pas répéter parce que nous n'avons pas la force. Espérant que nos enfants reviennent dans une condition de la paix.
Près de 600 000 réfugiés centrafricains vivent dans des pays voisins, tandis qu'un nombre égal reste déplacé à l'intérieur de la Centrafrique. Au cours des 3 dernières années, le HCR a aidé au retour de 13 500 personnes et estime à 127 000 le nombre de réfugiés centrafricains qui sont volontairement revenus chez eux.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Nous restons en Afrique du Sud, mais destination le Cameroun, où les autorités ont organisé une campagne nationale de vaccination pour enrayer une épidémie de rougeole qui a infecté plus de 3000 personnes cette année. La région la plus touchée est la frontière avec le Nigeria et le Tchad, où 17 enfants sont morts ce mois-ci. Un reportage de Moki Edwin Kinzeka, relaté par Nathalie Barge.
Le docteur Ezo Abris coordonne les équipes de vaccination déployées dans les villes, villages et autour de Yaoundé. Il parcourt les rues de la capitale pour dire aux gens que des équipes sont à tous les carrefours dans les églises, écoles, marchés et lieux fréquentés pour vacciner les gens. L'infirmière Thérésia Mabou, membre d'une équipe de vaccination, a déclaré que cette campagne vise à sauver des millions de vies menacées par une épidémie de rougeole.
C'est efficace, c'est simple et gratuit pour tous les enfants. J'appelle donc tous les parents et toutes les mères à vacciner leurs enfants. Nous avons également le déparasitage des enfants à partir de 1 an. La vitamine A est administrée aux enfants âgés de 6 mois à 5 ans.
Le ministère de la Santé indique que les régions du Nord, où plus de 2000 des 3000 cas ont été signalés cette année, affichent des taux de natalité plus élevés et une couverture vaccinale plus faible, à peine 3 mères sur 10 visitant des établissements de santé. Les parents préfèrent les tradis praticiens, qui sont plus accessibles que les hôpitaux souvent éloignés et dépourvus de médicaments. La peur et la désinformation suscitent la méfiance vis-à-vis des vaccinations. Certains parents refusent ou oublient de faire vacciner leurs enfants à l'âge de 9 mois, comme l'Organisation mondiale de la santé le recommande. Loveline Tossam, une mère de famille âgée de 23 ans, a déclaré que c'est après avoir perdu sa fille de 2 ans, peu après son arrivée à l'hôpital du district de Biyemassi à Yaoundé, que le personnel médical l'a informé qu'elle devait vacciner ses enfants.
Elle toussait, elle était très faible et elle vomissait sans cesse. 24 heures après, nous l'avons perdue.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'hésitation à l'égard des vaccins est l'une des 10 principales menaces à la santé mondiale qui ont conduit à la réapparition de la rougeole dans certains pays. Le docteur Fanuel Abimana, représentant résident de l'OMS au Cameroun, a déclaré que les gens devaient faire confiance à la capacité des vaccins de sauver des vies.
Le vaccin qui est offert aux enfants est un vaccin sûr, efficace. C'est en fait le vaccin que vous et moi avons reçu quand nous étions enfants. Et donc l'OMS en appelle à la mobilisation communautaire, à la mobilisation des leaders politiques, des leaders communautaires, de toute personne qui a de l'autorité, de permettre aux enfants de se faire vacciner durant cette campagne. Au-delà de la campagne, il faut continuer à renforcer la vaccination de routine.
Deux injections peuvent prévenir la rougeole et l'OMS affirme que le traitement est sûr et efficace et qu'il est utilisé depuis les années 60. Le Cameroun a enregistré sa dernière épidémie massive de rougeole de février 2010 à juillet 2011, au cours de laquelle 37 des 179 districts de santé du pays ont été touchés.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Notre dernier dossier de ce matin nous conduit en Afrique de l'Ouest pour rencontrer l'un des derniers grands peuples nomades de la planète, une communauté d'environ 35 millions d'habitants répartis dans 15 pays de l'Afrique de l'Ouest, du Sahel poussiéreux aux forêts tropicales luxuriantes. Mais les sécheresses de plus en plus fréquentes au Niger, l'accès à l'eau qui se raréfie, représentent une menace réelle pour la survie des éleveurs Fulani ou Wodabé. Ils font face aux effets du changement climatique, comme vous le verrez dans ce récit d'Arzuma Compaoré.
Les Peuls sont des éleveurs pastoraux qui migrent avec leur bétail suivant les saisons. Mais aujourd'hui, leur vie séculaire est menacée. Ibrahim Sakbari est un éleveur Fulani.
Pendant la saison sèche, nous avons toujours un problème d'eau. Il a plu en début d'année et les étangs et les points d'eau étaient remplis. Mais la sécheresse est revenue. Les points d'eau se sont asséchés et nous avons dû nous rabattre sur ce puits pour abreuver les animaux.
Rwada Sakbari, éleveur Fulani.
Notre vie est liée à l'élevage. Tout ce que nous possédons, c'est grâce à l'élevage. Nos animaux nous apportent tout ce dont nous avons besoin. Tout ce que nous faisons dépend d'eux. Ils sont essentiels pour nous.
Le Niger, un pays où plus de 80% de la population vit de l'agriculture, est au premier plan de l'urgence climatique. Au cours des dernières décennies, les Fulani ont vu leurs troupeaux décimés par la sécheresse et la faim. Et ce déclin s'accélère. Chaque année, une superficie de plus de 1000 km² est perdue face à l'avancée du désert et à l'érosion des sols.
Je ne pense plus que nous puissions continuer l'élevage. Avec le changement climatique, les choses deviennent de plus en plus compliquées pour nous, sans parler de ce qui se passera pour les générations à venir.
Beaucoup de Peuls ont dû abandonner l'élevage pour s'installer dans les villes afin de nourrir leurs familles. Ils sont devenus des agents de sécurité ou de petits commerçants, alors qu'un nombre considérable de personnes s'est déplacé vers Niamey ou d'autres capitales en Afrique de l'Ouest. Barka Azé, éleveur Fulani, devenu agent de sécurité.
Nous avons eu un certain nombre de problèmes en ville. Nous avons parfois du mal à nous nourrir, contrairement à autrefois, lorsque nous vivions dans la brousse avec les animaux. En ville, mon salaire est si bas qu'il ne couvre pas nos besoins.
Adiza Atahiro, laitière dans une coopérative.
Avant de partir, j'ai vendu mes animaux pour payer la scolarité de mes enfants. Mais comme je n'avais plus d'animaux, je suis partie pour aider ma famille. Après plusieurs tentatives, j'ai réalisé que cela ne fonctionnait pas et que je ne gagnais pas assez d'argent. C'est pourquoi j'ai accepté ce travail.
Les anciens de la communauté parlent de malédiction, car pour les Fulani, les vaches sont avant tout un symbole de liberté et le nomadisme un mode de vie à défendre à tout prix.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi à la console, Paul James Pidier. Un grand merci à Michel Joseph pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Merci aussi à toute la rédaction de VOA Afrique. Nanit Talani avec vous en direct du studio 16 de la Voix de l'Amérique à Washington. Excellente journée à l'écoute de nos programmes.